Il est 6h30 à Paris et à Kinshasa. Merci d'écouter RFI 5h30 en temps universel. Le début d'une demi-heure d'information consacrée à l'actualité africaine avec vous, Simon Bourtembourg, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Le journal pour commencer avec à la une l'inquiétude des acteurs humanitaires quant au sort des déplacés du conflit qui oppose le M23 et l'armée congolaise dans l'est de la RDC.
Et nous le verrons, les conditions de vie sont déplorables dans les camps qui accueillent par exemple les centaines de milliers de personnes qui ont fui la province du Nord Kivu. Reportage à suivre en périphérie de Goma. Londres et Maurice à nouveau opposé sur la souveraineté des Chagos, rétropédalage du nouveau gouvernement mauricien, alors que le litige semblait en voie de résolution, finalement c'est un retour à la table des négociations. Dans cette édition, nous vous dirons pourquoi la diaspora tunisienne s'insurge après la publication d'une vidéo où le ministère du Tourisme incite les Tunisiens à ne pas quitter le pays. Et puis dans 12 minutes, les sports et les derniers résultats des matchs allés du deuxième tour des éliminatoires du CHAN 2025. Nouveau week-end de violence en République démocratique du Congo. De violents combats ont été observés dans le territoire du Lubero. Des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les troupes gouvernementales qui depuis 3 ans ont forcé beaucoup de Congolais à l'exode. Des centaines de milliers d'habitants de la province du Nord Kivu ont par exemple été déplacés. Ils se sont installés en périphérie de Goma. Dans ces camps de déplacés, malgré l'aide des ONG, les conditions de vie sont très précaires. Reportage Coralie Pierret.
Le centre de santé de Roussayo 1 est bondé en cette matinée de décembre. Naïssi vient pour faire vacciner son bébé. Elle habite ce camp de déplacés depuis février 2023.
Pour vivre, nous allons travailler dans les champs pour d'autres personnes. Tu vois comme nos mains sont devenues abîmées ? En échange, on nous donne 3000 francs ou 5000 francs par jour. Et c'est dur de trouver à manger avec ça. Alors parfois, nous partons chercher du bois dans la forêt que nous vendons ici pour pouvoir acheter de la nourriture. Parfois aussi, les gens pour qui nous travaillons nous donnent des patates douces à manger.
Plusieurs ONG, dont Alima Roussayo, appuient et apportent une assistante gratuite aux déplacés. Une aide très souvent insuffisante. Alors pour vivoter, certains vendent des unités de téléphone sur le bord de la route. D'autres passent le temps en regardant des films indiens traduits en swahili, la langue locale. Norbert est arrivé il y a 9 mois en provenance de Rutshuru.
Je faisais la cordonnerie et je cultivais des tomates, des haricots, même les maïs. Ça m'aidait beaucoup vraiment, donc je n'ai pas manqué à manger là où j'étais à la maison. Si la guerre termine là-bas, vraiment, je ne peux pas souhaiter de rester ici.
Car dans les camps, impossible de cultiver faute d'espace disponible. Difficile de savoir avec précision combien sont les déplacés aux portes de Goma. Probablement encore des centaines de milliers. Même si la guerre n'est pas terminée, certains ont fait le choix de rentrer chez eux. Coralie Pierret, de retour de Goma. RFI.
Et nous revenons dans un peu moins de 20 minutes sur les conditions de vie dans les camps de déplacés en RDC avec notre invité Emmanuel Lampart, directeur pays de Médecins Sans Frontières. Sur le volet des négociations cette fois, depuis l'échec des négociations de Luanda, le président Félix Tshisekedi multiplie les entrevues. Alors qu'il était à Brazzaville samedi, le président congolais a rencontré son homologue burundais hier. Un échange en tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye qui a duré environ 2 heures et dont rien n'a filtré. En République démocratique du Congo encore, une nouvelle tragédie dans la province de l'Équateur. Une embarcation surchargée a fait naufrage au port de Lolo. Le bilan provisoire fait état d'au moins 40 morts et d'une centaine de disparus. Joseph Bayoko Longkondo est membre de la société civile locale. La surcharge des baleinières, mais surtout l'absence des gilets, est pour lui à l'origine de cet accident.
Comme on l'a dit, ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est la surcharge, c'est la circulation nocturne. Le vice-premier ministre, le ministre des Transports, avait pris un arrêté pour demander à tous les voyageurs fluviaux de pouvoir se procurer de gilets de sauvetage. Mais cette décision semble être ignorée par les autorités politico-administratives de la province de l'Équateur qui cède à la collection des gens voyagés sans sauvetage. Voilà, aujourd'hui, nous déplorons plus de 40 morts. Les autorités politiques doivent avoir un œil regardant sur le commissaire fluvial, c'est lui qui veille sur les navigations fluviales, beaucoup d'armateurs se sont familiarisés avec le commissaire fluvial et d'autres donnent de l'argent pour laisser les passagers voyager comme ça. Ils disent que non, bah, les gilets de sauvetage coûteraient cher. Mais aujourd'hui, nous comptons des morts. Moi, je pense que les autorités doivent voir les manières de faire les choses pour protéger les vies humaines.
Un témoignage au micro RFI de Wely Diallo. 32 morts, c'est le nouveau bilan des mouvements de foule survenus samedi au Nigeria lors de distribution de denrées alimentaires. Alors que le pays connaît l'une de ses pires crises économiques, avec notamment une conséquence forte sur l'inflation des denrées alimentaires, selon la police, au moins 10 personnes ont péri à Abuja, la capitale fédérale, et deux autres à Okidja lors de ces bousculades meurtrières. Le président Bola Tinubu avait, lui, annulé tous ses rendez-vous officiels en hommage aux victimes. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a pu recevoir la visite de sa femme en prison, son épouse, directrice exécutive de l'ONU SIDA, qui avait alerté sur les conditions d'incarcération de son mari. L'opposant ougandais avait été enlevé au Kenya en novembre dernier, puis extradé. Il est soupçonné d'avoir fait des menaces à la sécurité nationale. Accusé d'avoir sollicité un soutien logistique en Ouganda et en Grèce et dans d'autres pays, et ce dans le but de compromettre la sécurité nationale. Mais Kizza Besigye ne compte pas baisser les bras, c'est en tout cas ce que martèle son épouse.
Je l'ai vu et il tient le coup. C'est quelqu'un qui sait endurer, qui sait persévérer. Quand ils ont annoncé qu'ils interdisaient les visites, cela m'a beaucoup inquiétée. J'avais prévu de m'y opposer, mais heureusement, ils ont changé d'avis et j'ai pu rendre visite à mon époux. Dans tous les cas, ce n'est pas une situation normale. Tout d'abord, il a été enlevé au Kenya. Les personnes qui l'ont enlevé sont des agents de sécurité du gouvernement ougandais. Ils l'ont conduit sur plus de 500 kilomètres et l'ont jeté dans une prison militaire. Lorsque nous avons protesté, ils l'ont transféré dans une prison civile. Mais ils l'ont tout de même inculpé devant un tribunal militaire, alors que la loi stipule bien que l'on ne peut pas juger un civil devant un tribunal militaire. Donc, dans toute cette affaire, que ce soit la façon dont ils l'ont arrêté, la façon dont ils l'ont maintenu en prison, le tribunal où ils l'inculpent, tout est irrégulier, illégal et criminel.
Et le procès de Kizza Besigye est lui prévu pour le 7 janvier prochain. Résurgence d'un différend territorial vieux de 56 ans, le nouveau gouvernement mauricien a exprimé des réserves sur les termes du projet d'accord avec Londres sur la souveraineté des Chagos. L'archipel qui abrite la base américaine de Diego Garcia avait été détaché de Maurice par la Grande-Bretagne et ce juste avant l'indépendance en 1968. Alors que le litige semblait en voie de résolution, finalement c'est un retour à la table des négociations. Les précisions depuis Port-Louis avec Abdoulaye Rally.
Au Parlement, le Premier ministre a déclaré que l'accord politique n'apporte pas les bénéfices attendus pour Maurice. Cette situation a conduit à de nouvelles négociations. La Grande-Bretagne a dépêché à Maurice Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale, et Harriet Matthews, directrice générale pour l'Afrique. Deux enjeux majeurs sont en discussion. Le premier concerne la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Londres reconnaît cette souveraineté mais propose que Maurice cède pour 99 ans ses droits sur Diego Garcia où se trouve la base américaine. Pour l'équipe de Navin Ramgoolam, ce compromis pose des problèmes juridiques car la constitution mauricienne intègre les Chagos dans son territoire. De plus, la Cour internationale de justice a déclaré illégal la présence britannique sur l'archipel. Céder une partie du territoire à la Grande-Bretagne contreviendrait donc à cette décision. Le second enjeu majeur concerne les redevances d'occupation du territoire. Le montant et la rétroactivité du loyer sont en négociation. Selon le Premier ministre mauricien, Londres souhaite finaliser cet accord avant l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
La Russie serait-elle en passe d'étendre son empreinte militaire en Libye? Pour l'heure, des rotations d'avions, de transports russes avec du matériel ont été documentées par la presse italienne et ce dès le lendemain de la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Des vols à destination des territoires sous contrôle des forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Un mouvement qualifié d'inacceptable par le Premier ministre de l'Union nationale, mais pas sûr que cette présence russe en Libye soit de bon augure pour le maréchal Haftar. Hasni Abidi est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
ça va être dangereux sur le plan national et sur le plan international. Sur le plan national, il va finalement être perçu comme celui qui, comme Bachar al-Assad finalement, a livré une partie du territoire libyen aux Russes et qui va être une zone d'influence parce que les Occidentaux ne vont pas laisser les Russes s'installer durablement dans une région très proche des intérêts occidentaux. Ça va être aussi dangereux pour lui aux yeux surtout des États-Unis puisque Haftar entretient de bonnes relations avec Washington, avec Paris, avec plusieurs capitales occidentales, en voyant en lui finalement l'homme qui a contré l'expansionnisme radical, ça dangereux pour lui parce que les Américains et les Occidentaux, dans ce contexte de la guerre en Ukraine, ne veulent surtout pas d'une augmentation des capacités militaires de la Russie en Méditerranée.
Hasni Abidi au micro RFI de Paul Lorgerie. Inciter les Tunisiens et les Tunisiennes à ne pas quitter le pays, c'est le sens d'une vidéo publiée par une influenceuse et commandée par le ministère du tourisme tunisien. La vidéo comptabilise près de 3 millions de vues entre Facebook et Instagram. Elle suscite beaucoup de commentaires positifs dans le pays, mais elle divise certains Tunisiens, notamment ceux qui vivent à l'étranger. Lilia Blaise.
Dans une vidéo publiée le 18 décembre, Fatma Bouhoum, créatrice de contenu, incarne une mère qui marie sa fille. Avant la cérémonie, elle lui offre un collier avec en pendentif le contour des frontières de la Tunisie. Le pendentif rappelle à la jeune mariée l'amour de son pays à travers ses souvenirs de visites dans différentes régions. Elle réclame donc une condition à son époux avant de lui dire oui, ne jamais quitter la Tunisie. Le dernier message de cette vidéo divise certains internautes, notamment les Tunisiens résidant à l'étranger, comme Sarah Zina, artiste visuelle.
Que Fatma Bouhoum n'a pas élargi sa vision, qu'elle semble réduire à une interprétation simpliste du patriotisme, en le liant exclusivement à la présence physique dans le pays. Je peux être à l'étranger et être très très patriote plus que d'autres.
Basée en France et très engagée pour son pays, Sarah Zina perçoit le message de la vidéo comme réducteur.
Cette perception restreinte des Tunisiens à l'étranger mérite d'être remise en question car elle ne reflète pas la diversité et la richesse de leur contribution.
Certains internautes ont aussi critiqué une vision trop romancée de la vidéo par rapport à la réalité difficile de la situation socio-économique en Tunisie qui pousse de nombreux Tunisiens à quitter le pays. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
RFI, 7h42 minutes à Tunis, une heure de moins ici à Paris. Et nous sommes encore ensemble jusqu'à 5h30, temps universel, avec à suivre notre invité ce matin, le directeur pays de Médecins Sans Frontières en RDC, Emmanuel Lampart, qui revient sur les conditions de vie inhumaines dans les camps de déplacés où sont entassés les centaines de milliers d'habitants. Ils ont fui la province du Nord Kivu, forcée à l'exode depuis plus de 2 ans et le début des affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. À suivre également, comme chaque matin, la chronique matière première, où il sera question